tous, vous êtes toujours à l'écoute de Idées Noires sur le 102.2 de Radio Canu, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Une troisième page se prépare pour cette émission extraordinaire.
Et c'est parti. Ouais, on va parler d'un nouveau projet de loi qui vise directement la fraude dans les transports en commun. Alors, ce projet de loi prévoit en fait 2 mois de prison et jusqu'à 3750 euros d'amende pour les personnes qui altéreraient la présence des contrôleurs dans les transports en commun. Donc c'est qu'un des seuls des aspects de cette loi qui criminalise la fraude, qui a été validée par l'Assemblée nationale en décembre et qui doit être examinée le 27 janvier par le Sénat. Donc concrètement, ça veut dire que, en gros, tous les messages du genre contrôleur sur la ligne A à Charpennes, contrôle dans le C1 direction Pardieu, pour signaler la présence de contrôleurs, sera bientôt passible de prison et d'une énorme amende, que ce soit via les réseaux sociaux, des SMS ou les applications et sites dédiés. Ça ne changera rien, tout est complètement interdit. Cette mesure hyper répressive qui a validé l'Assemblée nationale donc le 17 décembre précisément est inclus évidemment dans un paquet de mesures en plus visant le renforcement de la sécurité dans les transports après la tentative d'attentat dans le Thalys l'été dernier. Donc la loi passera le 27 janvier.
Aujourd'hui, c'est... normalement. Donc je ne sais pas ce que ça a donné, mais c'était au Sénat. Pas vérifier ce qui s'était dit, mais on le saura du coup peut-être demain. Voilà, si c'est à mon avis. Ils ont peut-être même rajouté des choses, peut-être.
On va avoir des surprises. Mais c'est déjà bien complet. Hein.
Ouais.
Donc, si certaines des dispositions de ce projet législatif, comme la palpation des usagers, ont fait couler un peu d'encre, cet article précis est passé discrètement. L'ensemble de cette loi est en réalité une véritable déclaration de guerre à la fraude, cheval de bataille des 3 énormes entreprises françaises du transport public attachées à leurs bénéfices. En ligne de mire de cet article 13 du projet de loi, ces messages très pratiques échangés sur les réseaux sociaux, ou pire, les applications sur smartphone qui avaient rendu dingues les multinationales. À Lyon, le Citral s'était engagé à obtenir l'interdiction de ce genre d'application après l'apparition de Un Ticket, qui était une application qui visait à se prévenir dans les transports en cas de contrôle. Les médias avaient alors largement relayé les plaintes des mastodontes du transport en commun. L'appli Un Ticket s'était rapidement éteinte. Face à l'incompréhension des médias et des autorités de transport, nous avons choisi de mettre fin au service, avait déclaré la jeune société lilloise. Pour éviter de sévères sanctions, ce type de dispositif devra maintenant être très sécurisé. La loi ne prévoit rien, évidemment, contre les malversations financières régulièrement dénoncées autour des marchés du transport public.
Ah oui,
on ne s'en serait pas douté. Si jamais vous alertez de la présence des contrôleurs, donc, vous risquerez donc 2 mois de prison et 3750 euros d'amende. La loi prévoit l'utilisation de l'arsenal habituel pour découvrir qui se cache derrière un site ou un pseudo sur un réseau social, bien sûr. Dans le cas où vous ne seriez pas averti à temps de la présence de contrôleurs, voilà ce qui se passera d'après le projet de loi. Si vous n'avez pas de ticket et que vous ne pouvez pas donner votre carte d'identité ou que vous refusez, vous écoperez en plus d'une deuxième amende, hein, pour être bien sûr.
Cadeau.
Cette amende sera une amende de troisième classe qui pourra être entre 45 et 180 euros d'amende. Donc pour mémoire, l'amende actuellement, c'est déjà pas loin de 50 euros si on peut payer de suite et 80 si on n'a pas de carte de crédit. Pendant que le contrôleur appelle le commissariat, si jamais vous en profitez pour vous tirer, ce sera 2 mois de prison et 7500 euros d'amende cette fois. Donc l'article 8 bis du projet de loi, hein, qui comporte pas mal d'alinéas comme ça. Si vous donnez une adresse qui n'est plus valable, l'entreprise de transport pourra demander aux impôts ou aux organismes sociaux votre adresse en cours. Si avec d'autres astucieux fraudeurs, vous voulez vous organiser en mutuelle, là ça devient un peu plus chaud. La loi prévoit la criminalisation des mutuelles de fraudeurs. Deux mois de prison et 3750 euros d'amende encore. Mais alors là, si vous avez eu l'idée d'en faire un peu de pub pour trouver du monde avec vous, pour la mutuelle, ça pourra monter jusqu'à 2 mois de prison toujours, mais... Non, 6 mois de prison, pardon, ferme et 45 000 euros d'amende. Et enfin, le délit de fraude par habitude, qui était donc de 5 infractions... Non, qui passera à 5 infractions dans l'année au lieu de 10. De quoi continuer à gonfler les prisons. Donc pour 5 contraventions, on risquera jusqu'à 6 mois de prison et 7500 euros d'amende. En attendant, ces quelques conseils à l'égard des usagers de transport public restent d'actualité. Et quelques arguments pour la gratuité des transports en commun qui fonctionnent très bien, évidemment. Évite de criminaliser toute une partie de la population et rendre les transports en commun moins anxiogènes. On voit l'exemple de la ville d'Aubagne.
Donc c'est en place depuis 2010, en fait, et a priori toujours en place, même depuis le changement de la majorité du conseil général, du coup, qui s'occupe de ça. Du coup, ça marche bien, il n'y a pas de perte financière, et au contraire, parce que c'est un des arguments, du coup, notamment sur Lyon, hein, de la Citral, ça veut dire que les fraudeurs et les fraudeuses sont les grands ennemis des transports en commun. C'est à cause d'eux qui... que les rames sont sales, enfin qu'on peut pas les entretenir, qu'on peut pas les changer parce que du coup il y a un gros coût à cause des fraudes. Bien sûr, tout ça c'est du pipeau. En plus, le président est complètement fou hein, du Citral sur Lyon. Il veut installer.
Et puis on les pointe toujours du doigt pour la sécurité aussi, comme si tous les fraudeurs du coup.
Puis c'est toujours s'en prendre du coup aux plus démunis, voilà, et pas aux autres, voilà, qu'on on tape bien sûr avec ce projet de loi de nouveau. Tout en sachant que chaque acte de solidarité, voilà, veut être puni par la loi maintenant. Enfin, on sait, voilà, t'as mis du coup tout ce qui était dans les réseaux sociaux pour prévenir des contrôleurs. Donc, du coup, ça, tu peux te faire choper.
SMS
du coup,
aussi, hein, c'est pris.
Et aller en prison, voilà, SMS, c'est quand même fou, quoi. Et derrière, on savait aussi qu'il y avait une petite campagne qui avait été menée sur Lyon, notamment, mais dans d'autres villes, je pense, où on proposait aux gens de partager leur ticket. Donc, à savoir de laisser son ticket quand on sort, quand il est encore valable. Ben, on sait que, du coup, que la Citral, eux, paye des personnes pour nettoyer tout ça. Aller ramasser les tickets qui sont laissés pour les partager, pour les jeter à la poubelle. Hein, voilà, c'est un truc de fou. Enfin, je crois que le dernier truc qu'ils voulaient installer, c'était un portique où tu étais obligé de jeter ton ticket pour que les portes s'ouvrent, pour être sûr que du coup, que le ticket ne soit pas partagé. Voilà. Donc, encore un bon truc de fou. Voilà, on surveillera du coup si tout passe dans ce projet de loi. Voilà, la question de la mutuelle des fraudeurs, c'était vachement intéressant parce que du coup, ça permettait, voilà, suite à une petite cotisation, voilà, ça, de pouvoir faire sauter un peu tout ça. Et c'était vachement intéressant. Mais là, bien sûr, comme c'est aux personnes. Enfin. Notamment les personnes qui prennent le transport en commun, soit par conviction, n'ont pas de voiture ou n'ont pas les moyens d'en avoir une, donc du coup, utiliser le transport en commun, tout en sachant qu'on sait qu'il y a des mutuelles pour les automobilistes qui existent pour faire sauter les contraventions. Il suffit de payer une cotisation à l'année à un avocat qui s'occupe du coup de faire sauter la majorité des contraventions qui sont illégales parce qu'il y a toujours un vice de procédure, voilà, ce machin, etc. Donc pour les automobilistes qui ont plein de thunes, il n'y a pas de souci, on laisse faire. Et par contre, pour les gens qui prennent le transport en commun et qui n'ont pas d'autres moyens de le prendre et qui n'ont même pas les moyens du coup de payer leur ticket, et eh ben du coup voilà.
Et puis on voit que c'est carrément visé parce que bon, 6 mois de prison et 45 000 euros d'amende, voilà. C'est vraiment énorme quoi.
Donc notamment le coût là de passer de 10 amendes par an à 5, enfin 5 ça va très vite quoi. tu peux t'en prendre 2 par trajet des fois. Ouais. Et du coup derrière voilà donc on conseille bien sûr.
Hein, je sais pas s'ils ont le droit de nous en mettre 2 dans le
même trajet. Si, ouais, je crois bien. Ouais, ils s'en foutent. Enfin, au moins dans la journée.
Payer 50 euros, ça vaut pas pour un ticket.
Peut-être pas dans le même trajet, mais au moins dans la même journée, quoi, sur l'aller-retour, on va dire, quoi, si jamais tu prends les transports en commun 3 heures après. Donc voilà, toujours des petits conseils, hein, aider ceux qui veulent frauder, hein, en les laissant passer derrière vous au niveau des portiques. Alerter quand il y a des contrôleurs. Dans les bus, c'est plus compliqué, dans les trams aussi, mais au moins dans les métros, dans certains axes, on peut prévenir les gens pour leur dire, demi-tour, contrôleur.
Prenez un peu au moment de sortir.
Voilà. Prenez les ascenseurs, ça marche bien. Les ascenseurs, c'est pas mal.
Ouais, c'est vrai.
Du coup, il y a moins en moins de contrôleurs des ascenseurs. C'est un peu plus long, mais au moins, ça protège un petit peu si vous fraudez. Enfin, voilà. Puis après, je pense que les conseils, enfin, il y a toujours après des techniques qui sortent de ça. Enfin, quand, à chaque fois qu'il y a une répression, il y a des nouvelles techniques qui sortent pour la solidarité. On espère qu'il y en aura. On va réfléchir. Et puis, il y a peut-être grand temps que sur Lyon, il y a de nouveau peut-être une campagne pour la gratuité des transports et pour l'arrêt de la criminalisation des fraudeurs et des fraudeuses.
Eh ben, en parlant de gratuité des transports, on peut faire un petit parallèle avec ce qui se passe encore au Brésil. On en a parlé la semaine dernière. Et ça a avancé un petit peu parce qu'il y a un état qui s'appelle, excusez-moi pour l'accent, l'Estado de Pernambuco, dans le nord-est du Brésil, qui a obtenu l'arrêt, que les transports ne soient pas augmentés et qui est une discussion autour d'un réajustement du tarif des transports. Par contre, dans tout le reste du pays, il y a encore des appels massifs à la mobilisation, entre autres surtout à Sao Paulo et à Rio de Janeiro, où ça bouge vraiment beaucoup, quoi. Il y a beaucoup d'affrontements avec la police et les gens sont dans la rue. Là, il y a un appel encore cette semaine, demain, une grande manifestation à Sao Paulo. Donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas, on leur souhaite du courage parce qu'on a vu que c'était chaud là-bas, quoi. Mais ils se laissent pas faire. pardon, c'est moi.
Vas-y,
qui
enchaîne. Ouais. On va parler un petit peu d'Idées Noires, du coup, journal de la du Front de Jeunesse.
Une lecture presque traditionnelle maintenant d'un article d'Idées Noires qu'on ne présente plus. Donc l'article s'appelle Écologie, la COP est pleine. La conférence des partis, donc la COP 21, s'est tenue du 30 novembre au 12 décembre 2015 en France. Celle-ci a réuni 195 chefs d'État et de gouvernement pour trouver un accord sur le climat. Si Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, se félicite d'un accord différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant,
tout ça,
il semblerait que les choses en soient autrement. Bien que l'accord prévoit une réduction d'entre 1,5 et 2 degrés, ceci reste irréaliste quand on juge des émissions actuelles de gaz à effet de serre. Pour être effectif, l'accord devrait être ratifié par au moins 55 pays représentant 55% des émissions mondiales. D'autant plus que les accords mondiaux sur le climat sont signés chaque année, mais le même scénario se répète. La COP 21 et l'accord trouvé ne sont qu'un reflet, une fois de plus, d'un système arrivé à son terme. Les objectifs capitalistes sont basés sur une accumulation de richesses par une recherche infinie de profits. Comment cela peut-il être conciliable avec l'état écologique actuel lorsque l'on sait qu'une grande partie des ressources a déjà disparu ? La crise écologique est plus profondément liée à l'exploitation des pays les plus faibles, alors que les États dits du Nord prévoient un fonds de 100 milliards de dollars pour les pays dits du Sud. Ceci ne devrait-il pas se préoccuper d'éviter la crise plutôt que de les camoufler ? Les pays du Sud sont les premières victimes de cette crise climatique qui engendre des catastrophes naturelles sans précédent, ainsi que des réfugiés climatiques obligés de fuir. On comprend alors l'engagement hypocrite, illusoire et inefficace des chefs d'État quand on voit la répression faite aux militants et militantes écologistes jugés par les États comme des terroristes. L'histoire se répète face aux mobilisations du projet inutile d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou par les répressions violentes lors de la marche pour le climat le 29 novembre à Paris. La crise écologique est plus que jamais un enjeu de lutte sociale contre le capitalisme. C'est par ce chemin-là, ici et aux quatre coins du globe, qu'elle sera résolue. Ne nous laissons pas avoir par le capitalisme vert, sa morale et ses conséquences toujours destructrices. Il n'y aura pas de résolution du problème sans un changement radical de système politique, social et économique.
Donc voilà, voilà pour cet article du coup du journal Idées Noires, donc, ouais, qui est créé par le Front Jeunesse de la CG à Lyon. Voilà, on va le rappeler encore un petit peu, mais qu'on fonctionne par commission, et notamment cette commission jeune qui existe pour les lycéens, lycéennes, étudiants, étudiantes et jeunes travailleurs, travailleuses ou sans emploi de toute manière.
C'est ça.
Voilà, vous pouvez nous rejoindre, n'hésitez pas à contacter le groupe, hein, sur le mail groupe-lyon@cga.org,
ouais, ou sur éventuellement, le réseau,
ou sur social, réseau social, voilà,
bien connu,
sur Facebook, si vous voulez. On va faire un petit point droit du travail, parce que vous savez, chose qui se passe. Ah, pardon, excusez-moi.
Non, mais je me permets parce que je vois que ça parlait de Notre-Dame-des-Landes, et pour rappeler qu'ils ont fait un petit coup cette semaine à côté de Limoges où il y a des camions du coup de Vinci qui ont été cramés et attaqués par des anti-aéroports. Donc je me trompe pas, 6 ou 7 camions à 200 à 300 000 euros le camion. Donc ça va leur faire une petite note sympa, je pense qu'ils vont s'en rappeler ce coup-ci.
C'est ballot.
Oh, c'est ballot.
Quel
oui.
dommage. Quel dommage.
Qu'est-ce qu'ils foutaient là ?
Triste pour eux.
Tout à fait.
Ouais,
petit tour du travail, donc vous avez sûrement entendu, voilà, on parle beaucoup de la possible fin des 35 heures, hein, parce que du coup il y a des déclarations de ce bon vieux Macron à qui on mettrait bien quelques claques si on le croise dans la rue, celui-là, qui sont tout de suite démentis par le grand chef Manuel Valls, mais qui du coup n'en pense pas moins, on suppose. Et donc du coup, ça c'est un des axes prioritaires du gouvernement, mettre fin à tout ça de quelque manière que ce soit. Donc là, c'est ce qui est un peu avancé, donc c'est de plus payer les heures supplémentaires au-delà des 35 heures, mais qu'ils soient beaucoup moins payés. Avant c'était à 25%, peut-être les descendre à 10 ou depuis les majorer du tout, du coup ce qui mettrait fin d'office aux 35 heures. Et il y a aussi tout ce qui est un petit peu accords nationaux avec les représentations syndicales, et que du coup ça aussi ça plaît pas, hein, parce que des fois il y a des blocages qui se font comme ça. On a pu voir non plus, enfin je crois que ça revient dans l'article, mais par rapport à ce qui s'est passé à la FNAC sur le travail dominical avec trois syndicats du coup qui arrivaient à 50%, bah qui sont opposés à ça, et du coup ce n'est pas passé. Et donc du coup pour faire ça, bah ils privilégient plutôt les accords de branche voire d'entreprise, parce que dans certaines entreprises il y a aucune représentation syndicale, donc ce serait assez facile pour des patrons un peu vicieux et vicieuses, des patronnes aussi il y en a, voilà, pour contourner un peu ça et pour faire croire aux gens que c'est pour leur bien. Et ben même ça suffit pas. Et maintenant il y a une autre controverse, voilà, sur le recours accru au référendum d'entreprise. Donc si le gouvernement va au bout de ses intentions, il s'agit d'un changement majeur dans les règles sur le dialogue social. Mardi 26 janvier, la ministre de l'Emploi, donc Myriam El Khomri, a annoncé une nouvelle mesure qui donnerait la possibilité d'entériner des accords minoritaires par un référendum d'entreprise. Donc c'est vraiment dévié, enfin voilà, contourner la loi quoi. Cette disposition critiquée par toutes les confédérations syndicales, à l'exception de la CFDT, dont un jour il faudra bien s'occuper d'eux et elle quand même à un moment donné, hein. C'est plus possible quoi. Donc devrait être inscrit dans le projet de loi sur la réforme du droit du travail qui sera présenté début mars en principe. Voilà, à l'heure actuelle, dans la quasi-totalité des cas, un accord d'entreprise ne peut entrer en vigueur que s'il est approuvé par des syndicats représentant au moins 30% des suffrages lors des dernières élections professionnelles, et sous réserve que les organisations de salariés pesant au moins 50% des voix ne s'y opposent pas. Ce qui est passé pour la FNAC du coup.
D'accord.
L'idée de la ministre chamboule cet ordonnancement. Elle permet aux organisations qui représentent donc au moins 30% du personnel et qui ont signé un accord de déclencher donc un référendum. Si la consultation donne plus de 50% en faveur du oui, cet accord s'applique, a expliqué cette bonne vieille ministre. Donc cette hypothèse voit le jour car l'exécutif manifeste depuis plusieurs mois le souhait d'encourager la négociation collective. À ce titre, il fait sienne une des recommandations du rapport remis en septembre 2015 par Jean-Denis Combrexel, dont on a déjà parlé. Le président de la section sociale du Conseil d'État préconisait de généraliser à compter de 2017 le principe de l'accord majoritaire entre guillemets plus légitime que celui ratifié par des organisations pesant 30% des voix. Mais comme le fait remarquer M. Combrexel dans son rapport, l'exercice n'est pas sans présenter des risques puisqu'il peut s'avérer compliqué d'obtenir l'imprimatur d'organisation représentant représentant une majorité du personnel. Donc l'exemple de la FNAC dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est d'ailleurs récemment heurté à cet obstacle. Son projet d'accord visant à instaurer le travail dominical approuvé par trois syndicats, dont la fameuse CFDT, a été abandonné car la CGT, FO et Solidaire, dont l'audience électorale à E3 dépasse les 50% d'entreprises, était contre. Plutôt bien du coup. Voilà. Mais le système évoqué mardi, donc par Madame El Khomri, peut éviter ce type de blocage, pardon, à condition que 50% du personnel consulté dans le cadre d'un référendum dise donc le fameux oui. C'est une manière donc de court-circuiter les syndicats. Tu m'étonnes. Donc déplore Jean-Claude Mailly, secrétaire général de FO, avec un tel dispositif, le droit d'opposition des organisations majoritaires passe à la trappe, c'est tout de même un problème. Cela revient à dire qu'aucun point n'est donné aux élections professionnelles, alors même que nous tirons notre légitimité de celles-ci. Le risque est grand d'engendrer donc de l'incertitude dans le dialogue social, tu m'étonnes. Donc n'est-ce pas pour faire avaler des pilules qui ne passent pas que la ministre envisage une telle option? On veut nous emmener sur un terrain où l'accord d'entreprise est supérieur à tout le reste, c'est absolument dangereux. Cette mesure est scandaleuse, s'indigne quant à elle Fabrice Angaille, membre du bureau confédéral de la CGT. Elle va de pair avec la volonté de privilégier la négociation collective à l'échelon d'entreprise, là où le lien de subordination entre salariés et employeurs pèse de tout son poids, où les menaces de chantage à l'emploi sont les plus fortes. Voilà. Seule la CFDT n'est pas fermée au schéma proposé par Madame El Khomri, mais le référendum ne doit pas être à l'initiative de la direction. Attention, c'est aux organisations signataires de piloter le processus, même si on est pro-patronal, quoi. C'est fou. Voilà. À Matignon, on nous indique que la disposition exposée mardi fait partie des hypothèses sur la table, bien sûr. Rien n'est encore arbitré à ce stade, mais le gouvernement souhaite aller dans cette direction. Tu m'étonnes. Et pour finir assez vite, alors j'aurais pas le temps de tout vous lire, mais un petit tour du côté du musée des Confléances, voilà, avec sexisme et précarité pour les petites mains de ce musée. Voilà, salaire au rabais, temps partiel et sexisme, les démissions se multiplient. Voilà, donc lycée, ça se passe donc vers Perrache par là-bas. Donc voilà, on a la parole d'une Annelise, hein, les prénoms ont été changés. Hein. Les toilettes, c'est au bout du couloir à gauche pour la 15e fois en moins d'une heure. Pas rigolo tous les jours de faire la billetterie du musée. Je pensais que bosser dans un musée, ça allait un peu faire travailler mon cerveau, mais en fait pas du tout. J'ai l'impression de vendre des billets à la chaîne. D'autant qu'Annelise, malgré ses vêtements d'amarre, est frigorifiée. En ce mois de novembre, il n'y a pas de chauffage dans le hall de l'établissement pourtant flambant neuf. Tu m'étonnes. Après plusieurs semaines de grogne, la direction finit enfin par distribuer des doudounes. Ils sont sympas. Et placer quelques radiateurs d'appoint. Vous savez pas si vous la taille que ça fait ce musée, mais effectivement, à chauffer, ça doit coûter une blinde, mais en même temps, fallait y penser avant, quoi. Voilà, c'est une toute petite victoire pour les salariés, mais la liste des griefs reste longue. Les visiteurs du musée doivent savoir ce qu'il s'y passe, lance Caroline, la vingtaine. L'ex-médiatrice en a eu aussi plein les guiboles. Ouh. Un jour, notre responsable nous a dit « Les femmes ont leurs règles, elles ont des gosses, elles sont tout le temps malades. » Ou encore « Avec le nombre de filles que vous êtes, c'est vraiment le poulailler ici. » Donc François, 25 ans, lui, look d'aventurier, pull en laine et cheveux désordonnés, a lui aussi quitté le musée. Il confirme, il s'est excusé un jour qu'il y avait autant de filles. Il pense que ça amène une mauvaise ambiance, alors que c'est sa mauvaise gestion qui pourrit tout. Voilà, dans les couloirs de ce navire futuriste de méthane et en verre, musée d'histoire, nature et des sociétés, les salariés n'ont pas vraiment le sourire. Pourtant, le dimanche 20 décembre 2015, l'ambiance est plutôt champagne et cotillon. Le musée des Confluences célèbre son premier anniversaire. Pour l'occasion, l'entrée est gratuite et la presse fait ses choux gras pour son audience supérieure aux prévisions. 825 000 visiteurs en un an. Donc voilà, je vous laisse, parce que du coup là c'est déjà 58, je vous laisse retrouver, enfin vous tapez sexisme et précarité pour les petites mains du musée des Confluences. Enfin, il y a d'autres exemples, bah voilà, ça fait rêver. Ça fait rêver. Vraiment... Ah, voilà.
Est-ce qu'on a le temps de faire un petit point agenda rapidement?
Ouais, c'est ce qu'on voulait faire, c'est pour ça que j'arrête là maintenant. On rappelle tout ce qui s'y passe pour le week-end. Donc vendredi 13h30, c'est devant. Monsieur. Vendredi 13h30, devant l'Hôtel Dieu, donc c'est route de Vienne, avec un rassemblement, parce qu'il y a un CHSCT extraordinaire à 14h30 suite aux menaces effectuées Oui, 13h30, mais le CHCT est à 14h30, c'est pour ça que le rassemblement est à 13h30. Suite à des menaces sur des syndiqués, notamment CGT et FO ou Sud, je sais plus, en tout cas des syndiqués. Donc il y a un grand rassemblement, n'hésitez pas à passer là-bas. Ensuite, à 16h, c'est devant la grande...
Saint-Jean-de-Dieu,
ouais, route de Vienne, ouais. Et après, c'est 16h, c'est au niveau de la grande poste de centrale de Lyon, la place Antonin-Poncet, pareil avec... un camarade syndiqué qui passe en conseil de discipline. Ensuite, donc 18h30, rendez-vous à la Plume Noire. Ça va bien à l'heure parce que ça commence pile à 19h la conférence.
C'est pas si je peux.
Ça commence bien à 19h. Mais venez à 18h30 déjà avec un représentant de Nord-Zartan, du coup, qui vient nous parler, comme j'ai dit tout à l'heure, de ce qui se passe notamment en Turquie, mais aussi du côté arménien, arménienne. Le samedi 14h30, donc du coup pas hétéro, le rassemblement du coup stop état d'urgence, même si on a un peu les boules, mais c'est pas grave, on y appelle, il y a une mobilisation, faut encourager en espérant du coup que les deux collectifs qui sont créés à un moment donné s'unissent, parce que ça va avoir le coup, hein, ou alors qu'on nous arrête un peu de nous griller les dates, mais bon. Ah, ça reste ça. Ouais, à 16h, du côté de Jean Massé, en c'est soutien ça. Aux Kurdes et tout ce qui se passe en Turquie, depuis plusieurs mois, une autre manifestation. Donc, 16h, place Jean Massé. Donc, ça ira jusqu'à Bellecour. Et après, comme je disais tout à l'heure, vous avez plus qu'à prendre le métro pour vous rendre à la Plume Noire, au 8 rue Diderot, pour la formation droit d'asile avec le collectif Migrants 13. Donc, voilà. Et puis, mardi 2 février, réunion publique, salle 3 de la Maison de la Guillotière, par le collectif Stop État d'urgence, celui dont on fait partie ce coup-ci. C'est 27 rue rue Béchevelin à Lyon, et la manifestation qu'on espère grande, réussie, etc., etc., le 6 février, au départ de la plage Jean Massé à 14h. Bah voilà, 21h.
Nombreux et nombreuses.
Bah voilà, je pense qu'on a tout dit.
Sûrement, sûrement.
On vous rappelle donc les permanences.
Une grande partie.
Mobilisation pour Goodyear aussi. Je
ouais, ce sera le 6 février ça. Donc on aura un peu le temps, ouais. Le 4 ou le 6, mais du coup. On se verra, on aura le temps de se voir la semaine prochaine pour en parler.
C'est ça, mercredi c'est prochain. Ça.
Je crois que c'est à 18h, Bellecour, plus un défilé qui va du côté du musée des 24 colonnes. Mais on aura le temps d'en reparler,
musée,
du coup.
Des 24.
Le musée, le tribunal. J'ai dit musée?
Oui.
Bah, c'est le musée des conférences qui m'est resté un peu dans la tête depuis tout à l'heure.
Ça m'a amusé, d'ailleurs.
C'est son côté poussiéreux.
C'est pas grave. Peut-être. donc voilà, on vous rappelle les permes 17h, 19h le mercredi, samedi 15h, 19h avec la collecte permanente en soutien aux migrants et aux migrantes, et les cours de langue le lundi soir à 18h aussi à la Plume Noire.
Voilà.
Voilà. Et si jamais vous êtes des fous et des folles, si vous êtes du côté, si vous nous écoutez du côté de Vérancy par là-bas en Haute-Savoie, on sera demain soir, dans une salle. Alors j'ai que l'adresse, je connais pas le nom de la salle. 3 chemins des grèves à Cran. Gevrier pour une conférence de la CEGA du coup sur la solidarité avec les migrants et les migrantes.
Et voilà.
Classe.
Donc bon. C'est fait pour ce soir et on vous dit, on vous donne rendez-vous à mercredi prochain pour une autre émission de Idées Noires.
Bonne soirée à toutes
Ciao.
Et tous.
Salut à toutes et à tous.